Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait 2 heures d'évasion en France, au bout du monde, sur Europe 1, nous sommes dans le Périgord, qui est une région vraiment incroyable du côté du patrimoine. Le patrimoine dans le Périgord, c'est immense. Là-bas, les châteaux se comptent en milliers. Visiter le Périgord, ça peut prendre toute une vie. Et alors, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette région, c'est qu'on voyage dans l'espace, pour aller voir les châteaux, mais aussi dans le temps. Car même si on recule de millions d'années, il se passe quelque chose dans le Périgord. La région était déjà très prisée du temps de Cro-Magnon. Nathalie Elal, vous êtes auteure, grande voyageuse. Qu'est-ce que vous nous avez déniché dans cette région magique ?
L'histoire d'une grande découverte, comme on aimerait en faire quasiment tous les jours, on peut dire.
Ouais.
Nous sommes en 1868, au Zézy de Taillac, dans la vallée de la Vézère, qui est une des rivières locales.
Très belle,
et là, il y a des ouvriers armés de pioches qui sont en train de percer le futur emplacement du chemin de fer sur les terres d'un certain monsieur Magnon, qui est un paysan du coin. Il découvre un trou. Or, comment dit-on le trou en patois ? Je vous le donne en mille, Philippe. Loup-croc. Et à l'intérieur de ce trou, eh bien, il y a les restes fossiles intacts d'un squelette d'Homo sapiens. L'homme de Cro-Magnon.
Attendez,
vient...
vous êtes en train de nous dire que Cro-Magnon, ça veut dire le trou de Monsieur Magnon.
Absolument. L'homme de Cro-Magnon vient de naître pour la seconde fois à environ 27 000 petites années d'intervalle.
Mais si ça avait été chez vous, ça aurait été le Cro-Googler.
Oui.
Je ne sais pas quoi il aurait ressemblé d'ailleurs.
Mais c'est dingue. C'est énorme comme info.
C'est énorme.
D'accord. Pour Lascaux, vous en avez une aussi bonne ?
Je ne sais pas, mais enfin, elle est pas mal quand même, je crois. Alors nous sommes cette fois-ci le 12 septembre 1940, donc toujours sur les bords de la Vézère, à Montignac. Il y a 4 enfants, dont 2 enfants juifs, qui sont cachés dans la région sous un faux nom. Et ils ont perdu leur chien. Il y a eu un éboulement de terrain, il a beaucoup plu. Évidemment, ils cherchent ce chien désespérément avec un éclairage de fortune. Et là, ils descendent dans la terre et ils découvrent sur les parois de la galerie où ils se sont introduits une extraordinaire fresque de peinture polychrome. C'est la salle dite des taureaux, la plus belle de la grotte, qui a été baptisée ensuite par un abbé passionné d'archéologie, la chapelle Sixtine de Périgordien.
Et ils ont retrouvé leur chien ?
L'histoire ne le dit pas, je pense que oui quand même, on le saurait. Hein.
Ah oui, c'est fou, c'est des histoires, on ne sait pas tout ça.
On ne sait pas tout ça.
Et alors, Lascaux, j'imagine que la Lascaux d'origine, celle-là, elle n'est plus visitable aujourd'hui.
Non, malheureusement, parce que le site a été définitivement fermé en 1963. Il y avait beaucoup trop de visiteurs. Et puis, il y avait une étrange moisissure verte qui menaçait d'endommager les peintures rupestres. Et le dernier homme à y avoir pénétré, en dehors, bien entendu, de l'équipe de scientifiques qui travaille en permanence, c'est Nicolas Sarkozy, quand il était à la tête de l'État. Mais je vous rassure, il y a quand même des répliques, Lascaux 2, 3 et 4, avec des colorants incroyables, des prouesses technologiques, des peintures rupestres. Enfin, c'est fantastique à voir.
Moi, j'étais un peu sur la réserve, je suis allé voir. Et franchement, c'est très, très bien fichu.
C'est convaincant.
Oui,
hein.
Très convaincant. Il y a une atmosphère, les dimensions sont respectées, il y a une obscurité, presque une humidité. Et c'est très agréable à visiter, alors que c'est une reconstitution, mais on l'oublie très vite. Non, c'est chouette.
Oui, c'est bien.
Vous l'avez vu, vous, Jean-Bernard ?
Je l'ai vu, mais contrairement à vous, Philippe, j'étais un petit peu déçu. Je préfère les sites qui sont restés dans leur jus. Mais effectivement, bon, c'est quand même normal qu'ils soient protégés.
Ça, c'est parce que vous êtes un peu snob.
Non, je suis authentique.
Il est rustique,
j'assume.
Oui, bien sûr.
Dans le Périgord, vous avez repéré deux, trois histoires plus récentes.
Oui, absolument. Le Périgord, vous le savez, est traversé par de nombreuses rivières. Donc, je vous ai emmené remonter le cours du temps. Là, on va aller un petit peu au fil de l'eau. Je vous embarque sur la Dordogne, qui a fait vivre du XVIIIe siècle jusqu'aux années 20 des centaines de familles d'une corporation qui est aujourd'hui disparue, qu'on appelait les gabariers. Alors, les gabariers, c'était les propriétaires des gabars. Qu'est-ce que c'était les gabars ? Des embarcations à fond plat, en bois de bouleau, plutôt fragiles, hein, pas du tout faites pour durer, parce que souvent, à l'arrivée, elles étaient brûlées comme bois de chauffage. Mais c'était des bazars flottants qui transportaient toutes sortes de marchandises locales. Par exemple, le bois destiné à fabriquer des barriques pour les vins, des châtaignes, des balles de papier, du charbon, des fromages, des pots pour les tanneries. Évidemment, il y a eu un déclin, malheureusement, des gabars à partir de 1887 à cause de l'arrivée du chemin de fer. Et la musique que vous entendez, c'est celle d'une série télé de 1994, réalisé par José Dayan, qui s'appelait La rivière Espérance.
Mmh.
C'est génial. Et vous remarquerez que, quelle que soit l'époque, il y a un truc à raconter sur le Périgord, tout le temps.
C'est
L'histoire
magnifique.
Est fabuleuse dans cette région. Ils vivaient comment, ces gabariers ?
Oh, j'ai une petite anecdote qui est chère à mon cœur, assez insolite. Figurez-vous qu'ils étaient plutôt pas trop mal nourris, en tout cas, matin et soir, de saumon qui était pêché dans les eaux de la rivière. Bien sûr,
oui,
la Dordogne regorgée de saumon à l'époque. Ils ont entamé une grève. Ils ont exigé que les maîtres gabariers leur fournissent 3 jours par semaine du poisson blanc et de la viande. Ils n'en pouvaient plus du saumon. C'est un comble quand on sait qu'aujourd'hui, la région se bat pour réintroduire justement ce saumon dans ses rivières.
C'était une grève anti-saumon.
Ah, anti-saumon. Du poisson blanc et de la viande, ça passait. Le saumon, on n'en voulait plus.
Mais il y a une anecdote du même genre. La truffe, et on va en parler dans un instant, qui était extrêmement abondante il y a un siècle en Périgord, on dit que c'était les pommes de terre des pauvres. C'est-à-dire qu'il y en avait tellement que les gens qui n'avaient pas les moyens de s'acheter de la pomme de terre mangeaient des truffes.
On les donnait aux cochons à une époque aussi.
Alors, il nous reste une petite minute. Vous avez un petit personnage célèbre à nous servir
Oui, le diable boiteux, Talleyrand, Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Autant vous dire qu'il boitait pas que des deux jambes, enfin plutôt d'une, mais il y avait celle du milieu qui fonctionnait très très bien, si vous voyez ce que je veux dire.
Dedans.
Oui, oui, je suis un peu laisse de temps en temps.
Alors, au début de l'émission, vous avez envie de fraises.
Il y a des messages similaires. Ouais.
C'est engagé.
Ce Talleyrand qui sautait allègrement dans tous les ministères et dans tous les lits, il faut bien le dire, pour marquer son attachement à sa région, qui n'était pas sa région natale, hein, il était né à Paris. En 1790, quand il s'occupe du découpage administratif de la France, eh bien, il s'arrange pour conserver les limites de cette province qu'il baptise la Dordogne.
Très bien. Merci Nathalie. J'adore vos petites infos. Oui.
Talleyrand qui avait un chef cuisinier remarquable, puisqu'il s'appelait Antonin Carême,
Absolument.
Qui était l'un des plus grands chefs de l'histoire de la cuisine et de l'histoire tout court.
Merci Nathalie, merci Olivier. Vous êtes sur Europe 1. Tous les soirs, nous voyageons entre 16h à 18h. Tout à l'heure, nous voguerons entre Bali et Jakarta en Indonésie. Et tout de suite, dans le Périgord. Et ce qu'il y a de bien dans cette région, c'est que c'est difficile d'y avoir faim. Rien que le nom Périgord, vous avez les babines qui se trémoussent. Il n'y a pas beaucoup de régions qui font ça. Le nom lui seul est nourrissant. On retrouve Olivier Pouls dans un instant comme un poisson dans l'eau.
Et si on partait tout l'été, Philippe Googler vous fait voyager sur Europe 1.